deuxième temps d'une semaine de la Fabrique de l'Histoire consacrée aux politiques environnementales. Aujourd'hui, le documentaire. Après avoir évoqué hier l'histoire de l'environnement aux Seychelles, dans l'océan Indien ou encore en Éthiopie, et avant demain de nous demander comment les habitants de l'Empire romain percevaient leur environnement naturel, nous vous proposons ce matin un documentaire signé Catherine de Copé et Séverine Cassard. Dans « Cacher le sang des bêtes de la tuerie à l'abattoir », elle raconte comment, au début du 19e siècle, cette préoccupation environnementale, même industrielle, de la place de la mort des bêtes dans les grandes villes, et en particulier à Paris, a saisi les scientifiques, les politiques, et donc a décidé de l'ouverture des premiers abattoirs. Jusqu'à 10h dans la Fabrique de l'Histoire aujourd'hui, « Cacher le sang des bêtes de la tuerie à l'abattoir », avec les analyses de Damien Baldin, Pierre Haddad, Thomas Leroux, Sylvain Leteux et Elisabeth Philippe.
Abattoir, hygiène. Expression nouvelle par laquelle on désigne les lieux où sont tués et préparés les animaux de boucherie destinés à nos aliments. Elle remplace le mot tuerie, employé autrefois, dont on se sert encore en province, et qui lui-même avait succédé au mot écorcherie, qu'on retrouve dans les anciennes ordonnances relatives à la boucherie.
Il faut bien voir dans un abattoir. Si je me prends un petit abattoir d'une petite ville de province, Châteauroux, hein, une petite ville moyenne, bah, dans mon carré d'abattoir, je vais tout faire. Moi, je suis abatteur, je suis même d'ailleurs peut-être détaillant, je vais une fois par semaine abattre, bah, j'abats un bœuf tous les 15 jours, puis j'abats un mouton ou deux moutons par semaine. Vous voyez, donc moi, dans mon carré d'abattoir, je fais tout, et on est polyvalent avec ma brigade de bouchers. Alors maintenant, bien sûr, je me mets dans un gros abattoir. Gros abattoir parisien, la Villette. Alors effectivement, dans mon carré d'abattoir, je vais avoir des ouvriers beutiers qui vont être l'élite de ma brigade. Ils vont faire que du bœuf. Et puis, dans mon carré d'abattage, je vais avoir d'autres ouvriers qui font que les moutons et d'autres qui font que les veaux.
Maurice Brizel, ancien champion de France de boxe toute catégorie. André Brunier, l'un des plus fins merlins de la Villette. La conservation de la viande blanche du veau nécessite une saignée totale sans décapitation.
Les ouvriers avaient un genre de carquois qui s'appelait la boutique. Et selon la spécialisation du boucher, il avait 6 ou 7 trous. Et il y avait un couteau pour dépouiller, un couteau pour couper les jointures, un couteau pour chaque chose. Et quand on dépouillait une bête, on allait dépouiller avec ce qu'on appelait un couteau à flanc. Alors c'est un couteau très très flexible qui suivait le contour de l'animal. Et il faut vous dire aussi une chose, c'est que c'est aussi surprenant que ça puisse paraître, et ça n'existait pas dans les tueries particulières, un ouvrier, un second, dépouillait uniquement le côté droit de la bête, parfois pendant des années, et le troisième, le côté gauche. Vous voyez, ils étaient spécialisés.
Cacher le sang des bêtes, de la tuerie à l'abattoir.
La Cité des Sciences que vous voyez là, c'est un ancien bâtiment qui était destiné à la vente des animaux qu'on devait abattre ici, dans des bâtiments d'abattage. Mais avant cela, il y avait les échaudoirs. Alors les échaudoirs, qu'est-ce que c'est ? Ce sont des pièces qui faisaient quoi ? Je ne sais pas moi, 15 mètres carrés, avec une sortie-entrée sur une cour d'abattage. Et donc, chaque boucher en gros avait son échaudoir numéroté et attribué par la préfecture de la Seine. Et dans cette cour, on abattait, parce qu'on n'abattait pas dans l'échaudoir. Parce qu'imaginez que dans les échaudoirs, après l'abattage et après le dépeçage des animaux, il fallait pendre les carcasses. Donc le boucher en gros vendait dans son échaudoir les carcasses qu'il avait accrochées.
Autour de la Cité des Sciences, à Paris dans le 19e arrondissement, il ne reste pas grand-chose, ou presque, des abattoirs de la Villette, fermés définitivement en 1974. Ce site gigantesque, unique fournisseur de viande de la capitale pendant plus de 100 ans, est devenu l'emblème des abattoirs parisiens. Inaugurée en 1867, la Villette produit dès les premières années quelques 11 000 carcasses par jour. Mais avant la Villette, comment faisait-on ? L'histoire des abattoirs en France prend ses racines dans le XVIIIe siècle et se concrétise dès le début du XIXe par la création des premiers abattoirs parisiens. Derrière, toute une logique portée par le pouvoir politique. Une histoire d'hommes et d'animaux. Damien Baldin.
La ville, au début du XIXe siècle, fourmille d'animaux. La ville ressemble beaucoup plus à une ferme, puisqu'il y a une véritable interpénétration entre les campagnes et la ville. D'abord, on y trouve les animaux qui sont le moteur des voitures, hein, puisque au début du XIXe siècle, toutes les voitures sont tirées par des chevaux. Qui dit présence des chevaux dans la rue dit aussi présence d'écuries en plein centre des villes. Évidemment aussi les animaux de basse-cour. Dans les maisons, dans les appartements, il n'est pas rare de voir des élevages de poules, des élevages de lapins. Et puis, ce qui est moins connu, c'est que les animaux qu'on qualifie aujourd'hui d'animaux de ferme sont en fait aussi des animaux de ville, puisque les animaux d'élevage se retrouvent en plein cœur des villes. D'abord parce que la consommation de viande, qui va aller croissant durant tout le 19e siècle, nécessite d'acheminer les animaux de boucherie en plein cœur des villes, puisque c'est là qu'ils sont tués et vendus. Et puis également, c'est aussi un point un peu oublié, la consommation de lait oblige à une présence des animaux dans les villes. Il y a des vacheries en plein cœur des villes, jusqu'au milieu du 19e siècle, jusqu'à l'invention de la pasteurisation. Le lieu de consommation doit être au plus près du lieu de production.
On voit aussi des animaux traverser la ville, venir de différents marchés aux bestiaux, qui je crois sont à Poissy et à Sceaux à l'époque.
Oui, vous avez des trajets traditionnels, à partir effectivement, vous l'avez dit, des grands marchés. Ces trajets qui amènent tous ces bovins essentiellement, enfin tous les animaux de boucherie jusqu'au cœur de Paris, très régulièrement. En tout cas, ce qui est certain, c'est que la population citadine, non seulement voyait concrètement les animaux qui allaient être consommés, mais en plus pouvait voir leur mort. Il y avait une sorte de contrôle visuel, en fait, pour toute la population de la viande qui pouvait être consommée.
Au cours du XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle, il y a combien de tueries particulières à Paris ? Est-ce qu'on a une idée de cette présence et est-ce qu'elle se développe ?
Alors il y a environ, au XVIIIe siècle, 200 à 300 bouchers. Chaque boucher peut tuer en général, mais ce n'est pas le cas de tous les bouchers. Parfois, il y a une mutualisation des tueries.
Thomas Leroux.
Mais Paris consomme beaucoup de viande, en fait. C'est une des villes qui consomme le plus de viande par habitant en Europe à cette époque. Et donc oui, il y a une corrélation très directe entre la montée en force d'une consommation et la présence des tueries dans Paris.
Les bouchers parisiens, c'est des gens qui abattent chez eux dans des tueries particulières. Ils sont environ 350, 400 maxi.
Sylvain Leteux.
Ce sont des gens qui souvent exercent le métier sur plusieurs générations. Donc ils sont en vase clos, mais en gardant l'esprit qu'il y a quand même un certain nombre de tueries qui sont regroupées dans des lieux phares. Le plus connu, c'est la Grande Boucherie près du Châtelet, où on regroupe, je crois, 50 étaux. Et après, la deuxième plus grande, ça va être l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés, qui a également, je crois, une cinquantaine d'étaux.
On dit étaux ?
Alors nous, en français le modèle, on doit dire étal, mais dans le contexte de l'époque, on dit étaux.
Vous parlez de tuerie particulière. En fait, la tuerie particulière, c'est également la boutique. C'est là où tout se passe pour le boucher parisien.
La tuerie, c'est le lieu de l'abattage. L'étal, c'est le lieu du débitage de la viande et de la vente au public. C'est comme s'il y avait une boutique, une arrière-boutique. L'arrière-boutique serait la tuerie, qui est le lieu de la mise à mort, et on aboutit à une carcasse et à des quartiers. Et après, l'étal, c'est le lieu où le boucher, ou sa femme, ou ses employés, vendent au public.
Zola, le ventre de Paris, 1873. Ils allaient à la triperie chaque jour, avec le goût du sang, avec la cruauté de galopins s'amusant à voir des têtes coupées. Autour du pavillon, les ruisseaux coulent rouges. Ils y trempaient le bout du pied, y poussaient des tas de feuilles qui les barraient, étalant des mares sanglantes. L'arrivage des abats dans des carrioles qui puent et qu'on lave à grande eau les intéressait. Ils regardaient déballer les paquets de pieds de mouton qu'on empile à terre comme des pavés sales, les grandes langues roidies montrant les déchirements saignants de la gorge, les cœurs de bœuf solides et décrochés comme des cloches muettes. Mais ce qui leur donnait surtout un frisson à fleur de peau, c'était les grands paniers qui suent le sang,
plein de têtes de moutons, les cornes grasses, le museau noir laissant pendre encore aux chairs vives des lambeaux de peau laineuse. Il rêvait à quelques guillotines, jetant dans ses paniers les têtes de troupeaux interminables. Il les suivait jusqu'au fond de la cave, le long des rails posés sur les marches de l'escalier, écoutant le cri des roulettes de ces wagons d'osier qui avaient des sifflements de scie. En bas, c'était une horreur exquise. Ils entraient dans une odeur de charnier. Ils marchaient au milieu de flaques sombres où semblaient s'allumer par instants des yeux de pourpre. Leurs semelles se collaient. Ils clapotaient, inquiets, ravis de cette boue horrible. Les becs de gaz avaient une flamme courte, une paupière sanguinolente qui battait. Autour des fontaines, sous le jour pâle des soupiraux, ils s'approchaient des étals. Là, ils jouissaient à voir les tripiers, le tablier roidi par les éclaboussures, casser une à une les têtes de mouton d'un coup de maillet. Et ils restaient pendant des heures à attendre que les paniers fussent vides, retenus par le craquement des os, voulant voir jusqu'à la fin arracher les langues et dégager les cervelles des éclats des crânes. Parfois, un cantonnier passait derrière eux, lavant la cave à la lance. Des nappes ruisselaient avec un bruit d'écluse, le jet rude de la lance écorchait les dalles, sans pouvoir emporter la rouille ni la puanteur du sang.
Dans la première moitié du XIXe siècle, Sylvain Loteux, les bouchers sont en rivalité avec d'autres professions liées aux animaux de boucherie, les tripiers et les charcutiers.
Oui, on peut même ajouter les volaillers. Effectivement, parce que chaque filière a son prix carré. Donc les bouchers, c'est le bœuf, le veau, le mouton. Hérité des traditions d'Ancien Régime, le charcutier, c'est tout ce qui est porc. Il y avait une exception, parce que mon charcutier fait du porc cuit, mais il a aussi, à Paris, la plupart des villes de France, il a obtenu la vente du porc frais. La question du porc frais est souvent un objet de conflit entre boucher et charcutier, qui est notamment à droit de vendre les côtes de porc fraîches. Est-ce le boucher ou le charcutier? Ah ouais, c'est technique. Bon, si on simplifie, le boucher, c'est bœuf, les bovins, les ovins. Le charcutier, c'est le porc. Et le tripier, c'est une filière qui est séparée très très tôt. Hein. Et quand on voit les textes du 18e, il y a une profession, notamment de tripière. La vente des triperies à Paris au 18e est un monopole féminin.
Et ça ne relève pas de la corporation des bouchers, jamais?
Ah non, ils n'ont pas le droit d'y toucher.
Je ne pense pas entrer dans l'histoire comme sauveur de l'humanité. Bien drapé dans mon tablier, j'ai pas de prétention à la gloire. Je me boulotte et je fais pas de folie, vu que ma tâche, elle est définie, aussi droitement qu'un fil à plomb. En deux mots, pour gagner ma vie, je tue le cochon. Sûr, si j'étais pépiniériste, ça ferait bien plus sentimental. Et je débiterais sur mon étal des chrysanthèmes ou des narcisses, des œillets pour les boutonnières, des lilas blancs, des roses crémières. Mais à chacun sa vocation, puisque la mienne est charcutière, je tue le cochon. Ça n'est pas que je méprise la bête, je tuerai pas une puce sur un chien. Mais à l'idée de faire du boudin, j'en ai le sang qui monte à la tête. D'ailleurs, je serais pas dans mon assiette si le matin, par une omelette, du petit salé à un litron, je descendais pas dans ma courette, tuer le cochon. De charcutier en charcutière, de charcutier en charcutier, depuis Napoléon Ier, la famille a été prospère. On n'a jamais eu d'inquiétude pour les certificats d'études. Parce que pour nous, de l'instruction, c'est uniquement des aptitudes au cochon.
Quel type de mesures sont prises au XVIIIe siècle contre ces tueries particulières, ou en tout cas pour qu'elles soient plus propres ou plus salubres? Et qui est derrière ces mesures?
Tout d'abord, des règlements de police, donc normatifs.
Thomas Leroux.
Qui depuis le Moyen-Âge, mais qui sont renforcés au début du XVIIIe siècle, soumettent les bouchers à des règles d'abattage. Hein, ils sont censés, puisqu'ils sont dans la corporation des bouchers, abattre selon un procédé très codifié. On leur demande de ne rien jeter dans l'espace public, si ce n'est les eaux rousses de lavage, qui sont autorisées, mais à condition qu'elles soient menées à un égout. Donc le système d'égout n'est pas tellement développé à Paris, mais en général, toute boucherie, donc toute tuerie particulière, doit être connectée à un égout. Ensuite, tous les déchets doivent être transportés soit à l'intérieur de l'atelier, parce qu'elles sont traitées à l'intérieur de l'atelier, soit dans des voiries.
Donc ce sont des lieux dédiés à recevoir les carcasses et les restes, c'est ça?
Voilà, exactement. Notamment à la fin du XVIIIe siècle, à la grande voirie de Montfaucon. Et puis après, tous les déchets utilisables sont réutilisés. Tous les tendons et la gélatine vont être utilisés par des fabricants de colle. tandis que les eaux vont être utilisées par des tabletiers, par exemple.
Qu'est-ce qu'on appelle les tabletiers ?
Les tabletiers, ce sont des artisans qui fabriquent des objets en os. Ça peut être des petits instruments de musique, ça peut être des manches d'éventail. C'est très, très diversifié, en fait, comme industrie, suivant le type d'os. Et puis, les peaux vont être mises à sécher dans un marché à peaux, ensuite vendues aux tanneurs pour les transformer en cuir. Et les suifs sont généralement fondus directement par les bouchers, en fait. C'est quasiment le seul résidu des animaux qui est directement traité par les bouchers, parce qu'ils en ont le monopole de fabrication et de vente.
Et là encore, il y a toute une interpénétration entre les industries, l'artisanat, les campagnes.
Damien Baldin.
Le sang peut être réutilisé pour les engrais agricoles. Et il y a notamment les os des bovins qui sont après réutilisés dans l'industrie sucrière, puisque c'est par la calcination des os de bovins qu'on va produire une substance qui permet de blanchir le sucre produit à partir des betteraves. Donc, chez les animaux de boucherie, rien n'est perdu.
À côté des normes juridiques, c'est-à-dire ce que le droit demande, les bouchers sont soumis, avant de rentrer en activité, à des enquêtes de commodo et incommodo, qui sont en fait des enquêtes de commodité pour déterminer si leur établissement va nuire au voisinage ou pas. Et donc ces enquêtes de commodo et incommodo sont obligatoires. Pour les tueries de Paris, c'est obligatoire depuis 1738. Elles doivent donc être menées par le commissaire de police du quartier, qui interroge au moins 12 voisins, ça peut être plus. Et ensuite, le dossier est transmis au procureur du roi au Châtelet, qui est la cour judiciaire de police, qui fait son rapport, et le lieutenant général de police, ayant tous les éléments à sa possession, peut se déterminer sur l'autorisation ou non pour ces établissements de boucherie. Alors, à côté de ces enquêtes de commodo et incommodo, les voisins pouvaient également, de leur propre initiative, envoyer des pétitions, qu'on appelait plutôt des pamphlets ou des placés, et soit écrire en faveur de l'installation, soit en sa défaveur. Et en général, les voisins sont plutôt favorables aux installations, mais il arrive que des bouchers s'installent dans des lieux où il n'y a pas d'égout, où on voit qu'ils n'ont pas pris les précautions suffisantes, notamment pour les fours à fondre le suif. Et dans les fêtes, on trouve des ordres de destruction des fourneaux qui sont effectifs.
Est-ce que vous pouvez nous parler, Sylvain Leteux, de l'image qu'ont les bouchers dans la société au début du 19e siècle ?
Si je me place à la fin de l'Ancien Régime, donc à la veille de la Révolution, il y a des bouchers qui pratiquent, qui font le métier. Ils tuent, ils vendent, ils découpent. Et puis de l'autre côté, j'ai les propriétaires des étaux de boucherie. J'ai les propriétaires des échaudoirs. Ces bouchers-là sont des grandes lignées, qui ont beaucoup de pouvoir, beaucoup d'argent. Eux ne pratiquent pas. Donc vous voyez, quand vous me parlez de l'image, c'est quoi ? C'est pas l'image du propriétaire. L'image du professionnel, du boucher qui pratique la boucherie, elle n'est pas bonne. Dans l'opinion publique parisienne de fin 18e, ils sont costauds, rougeaux, portés sur le sexe, lubriques, violents. Ils ont les couteaux, ils ont les instruments pour faire peur aux autres. Il faut bien voir que dans l'Ancien Régime, peu de gens ont des armes. Armes blanches ou armes à feu.
Ces bouchers sont des hommes dont la figure porte une empreinte féroce et sanguinaire. Les bras nus, le col gonflé, l'œil rouge, les jambes sales, le tablier ensanglanté. Un bâton noueux et massif arme leurs mains pesantes et toujours prêtes à des rixes dont elles sont avides. On les punit plus sévèrement que dans d'autres professions pour réprimer leur férocité. Et leur expérience prouve qu'on a raison. Le sang qu'ils répandent semble illuminer leur visage et leur tempérament. Une luxure grossière et furieuse les distingue. Et il y a des rues près des boucheries d'où s'exhale une odeur cadavéreuse. Où de villes prostituées, assises sur des bornes en plein midi, affichent publiquement leur débauche. Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, 1781.
L'abattoir est relié au marché par un pont jeté sur l'Ourcq pour le transbordement du bétail. Allez.
Dans l'ambiance assourdissante des treuils pneumatiques, les tueurs et ouvriers des chaudoirs travaillent entourés des vapeurs grises du sang des bêtes.
Héritier des grandes familles de bouchers parisiennes, Pierre Haddad fera sa carrière comme boucher en gros aux abattoirs de la Villette entre 1945 et 1974. Un métier qu'on appelle communément chevillard. Est-ce qu'il vous reste des documents, Pierre Haddad, de votre famille et de l'historique de la boucherie dans votre famille? Est-ce que vous avez des photos parmi vos...
J'ai la photo de la boucherie de mon grand-père.
Qui est là?
Elle n'est pas là-dessous, regardez-moi. Ah ben là, voilà. Puis voilà. J'ai Lazare. Mon grand-père est là et ma grand-mère est là. Et là, c'est mon oncle qui m'a élevé. Alors mon oncle, vous voyez, c'était petit comme il bouchait ce jour-là parce qu'il n'était pas en classe. Mais mon oncle, c'était Lys Henri IV et ma mère, Lys Fénelon.
Et alors, j'ai Lazare, c'est pour
j'ai... Ça veut dire Georges Lazare. Mon bisaïeul, mon trisaïeul était déjà dans la viande. Ma famille était Lorraine, de Ventoux, un pays qui se trouve à côté de Metz. Et à Ventoux, il y avait 450 habitants à l'époque et 200 bouchers sur 450 habitants. Bouchers ou marchands de bestiaux.
Et alors là, où est-ce qu'on est? Il y a écrit
voilà,
quoi sur la
grande boucherie du bon marché. Mon grand-père fournissait une partie de la rive gauche. C'était très important. Vous voyez le nombre de personnel qu'il y avait.
Donc là, on est dans la rue?
Oui, c'est devant la boucherie. Là, ce sont des gigots. Et là, ce sont des demi-carcasses.
Progressivement, la volonté du pouvoir politique de réduire la gêne occasionnée par les bouchers se renforce. Elle atteint son point culminant en 1810 sous Napoléon Bonaparte, par un décret interdisant le centre-ville à un certain nombre d'activités, dont les tueries et les chantiers d'écarissage. Première loi du genre dans le monde, ce décret débouche à Paris sur la réunion des tueries dans 5 lieux qu'on appellera abattoirs. Un mouvement qui s'explique en partie par le développement de l'hygiénisme.
Les hygiénistes, en fait, ce sont eux qui, au départ, signalent le risque pour la santé publique. En fait, ils considèrent que, jusqu'aux années 1820, ils considèrent que le sang, la putréfaction est source de miasme, et donc ce sont bien souvent des médecins qui signalent le risque.
Alexandre Parent du Châtelet, les chantiers d'écarissage de la ville de Paris envisagés sous le rapport de l'hygiène publique, 1832.
Chapitre 19. Odeur particulière au clos d'écarissage de Montfaucon. Qu'on se figure ce que peut produire la décomposition putride de morceaux de chair et d'intestin abandonnés pendant des semaines ou des mois, en plein air et à l'ardeur du soleil, à la putréfaction spontanée. Qu'on y ajoute par la pensée la nature des gaz qui peuvent sortir de monceaux de carcasses qui restent garnis de beaucoup de parties molles. Qu'on y joigne les émanations que fournit un terrain qui, pendant des années, a été imbibé de sang et de liquides animaux. Et l'on n'aura qu'une faible idée de l'odeur véritablement repoussante qui sort de ce cloaque, le plus infect qu'il soit possible d'imaginer. C'est cependant à la porte de Paris, dans le lieu le plus pittoresque et le plus agréable par sa position, non loin des promenades les plus fréquentées le dimanche par l'immense majorité de la population active et laborieuse de cette ville, que reste, depuis de longues années, le plus grand foyer d'infection qui ait peut-être jamais existé d'une manière permanente.
Journal de l'Empire, 4 décembre 1808. Nicolas Frochot, préfet du département de la Seine, au nom des orateurs du gouvernement.
Depuis tant de siècles, on reproche à la ville de Paris, et ses rues étroites ou tortueuses alors formées sans plan, et ses carrefours anguleux, et ses marchés incommodes, et certains de ses établissements que la propreté et la salubrité défendent de placer si près des habitations. Il est temps que la ville de Paris cesse de mériter ses reproches. Son titre de capitale du Grand Empire et l'honorable prérogative que son titre lui donne d'être le lieu du séjour le plus habituel de l'empereur l'exigent. Bientôt donc, messieurs, il faut que dans cette capitale, de vastes places succèdent à des carrefours dangereux. Que des rues plus spacieuses procurent les moyens de saisir, de différents points, l'ensemble de ces monuments qui, de toutes parts dans les murs, hors les murs de cette nouvelle Rome, s'élèvent ou s'achèvent à la voix d'un nouveau Trajan. Il faut que des marchés publics de forme régulière réunissent désormais sous des abris solides et les vendeurs et les acheteurs et les approvisionnements, que tant d'établissements où le sang des animaux exhale une odeur fétide à la fois et dangereuse soient reportés le plus loin possible de la masse des habitations. Qu'en remplacement de ces foyers d'insalubrité, des eaux se répandent et circulent dans les divers quartiers avec cette heureuse abondance que réclame la salubrité d'une grande ville. Et qu'enfin des bains publics exempts de tout danger, surveillés par la décence, s'élèvent sur les bords de cette Seine qui, à plus juste titre peut-être que le Tibre autrefois si fameux, peut aujourd'hui s'enorgueillir de son beau rivage.
C'est Napoléon Bonaparte en 1810 qui, par un décret impérial, va décider d'éloigner du centre-ville certaines activités, dont les tueries. Alors, il y a d'abord le décret et ensuite la création des abattoirs.
Voilà. Donc le décret 1810 et après il y a un deuxième décret de livraison des abattoirs qui est 1818.
C'est l'odeur qui est mentionnée dans l'intitulé du décret parce que nous sommes à une époque où l'odeur est considérée comme un véhicule des miasmes. La mauvaise odeur indique en fait l'insalubrité et le risque de maladie et donc d'atteinte à la santé publique. Dans les faits, c'est bien plus que l'odeur qui est visée en fait. C'est toutes les pollutions diverses, souillures des eaux, de l'air, corrosion des vapeurs acides, risque également d'explosion ou d'incendie. Donc ça peut être à l'échelle individuelle, juste un petit fabricant qui va tuer ses bestiaux ou tout simplement avoir une activité de fabrication de colle par exemple, ou un tanneur qui travaille pour lui-même, ou alors des usines qui emploient plusieurs centaines d'ouvriers.
Établissements et ateliers qui ne pourront plus être formés dans le voisinage des habitations particulières et pour la création desquels il sera nécessaire de se pourvoir de l'autorisation du ministre de l'Intérieur.
Décret impérial du 15 octobre 1810.
Amidonnier, four à chaud, artificier, porcherie, bleu de Prusse, poudrette, boyaudier, rouissage de chambre, charbon de terre épuré, sel ammoniaque, charbon de bois épuré, soude artificielle, chiffonnier, taffetas et toile vernie, colle forte, tuerie.
Ce qui est important de comprendre, c'est que la nuisance, c'est une catégorie juridique depuis le Moyen-Âge et peut-être même avant. Tout est regroupé sous forme de nuisance, c'est-à-dire que un fondeur de suif va provoquer des nuisances en termes de fumée, d'odeur et de risque d'incendie. Un teinturier va provoquer des nuisances en termes de pollution des eaux. Une fabrique d'artifice, ça sera plus le risque d'explosion. Une fabrique de gaz, d'éclairage également. Le décret de 1810 englobe la quasi-totalité de ces nuisances. Et après, ça va être dans son application différents corps qui vont intervenir.
Cordes à instruments, tourbes carbonisées, cretonniers, triperies, écarissages, échaudoires, eaux fortes, acides sulfuriques, etc., cuir verni, suif brun, cartonnier, ménagerie, fabrique de vernis, minium, fabrique d'huile de pied ou de corne de bœuf, four à plâtre.
La création des abattoirs s'inscrit dans cette histoire des industries.
Damien Baldin.
Et puis après, vous avez aussi une histoire qui est plus propre à l'histoire des animaux et du rapport de la population aux animaux domestiques. Et qui est là une histoire plutôt des sensibilités, et notamment la sensibilité, un, à la violence faite aux animaux, et au spectacle du sang et de la violence. Nous sortons d'une période révolutionnaire, où le spectacle de la violence heurte de plus en plus les émotions, et l'abattage des animaux, dont on aperçoit déjà à l'époque des Lumières quelques traces d'intolérance, notamment chez les élites qui dénoncent ce spectacle de la violence. Après la période révolutionnaire, il est évident que le fait de réglementer, de cacher, d'éloigner s'inscrit dans une logique bien plus profonde, notamment du pouvoir, de mettre à distance le spectacle du sang. Et d'ailleurs, quand vous lisez quelques témoignages justement de la fin du XVIIIe siècle, avant l'argument de l'hygiénisme, il y a un argument d'hygiène morale. On ne veut plus que la population, notamment les femmes et les enfants, puissent être confrontées au quotidien à ce spectacle du sang et de la violence. Et puis, parce que ça s'inscrit aussi dans une idée assez répandue chez les élites, la vue du sang excite. Et moins la population ou le peuple voit de la violence, plus on espère réguler les pulsions violentes des révolutions.
Louis-Sébastien Mercier, Tableau de Paris, 1781. Boucherie. Elles ne sont pas hors de la ville ni dans les extrémités, elles sont au milieu. Le sang ruisselle dans les rues, il se caille sous vos pieds et vos souliers en sont rougis. En passant, vous êtes tout à coup frappé de mugissements plaintifs. Un jeune bœuf est terrassé, et sa tête armée est liée avec des cordes contre la terre. Une lourde massue lui brise le crâne. Un large couteau lui fait au gosier une plaie profonde. Son sang qui fume coule à gros bouillons avec sa vie. Quelquefois, le bœuf, étourdi du coup et non terrassé, brise ses liens et furieux s'échappe de l'antre du trépas. Il fuit ses bourreaux et frappe tous ceux qu'il rencontre, comme les ministres ou les complices de la mort. Il répand la terreur et l'on fuit devant l'animal qui, la veille, était venu à la boucherie d'un pas docile et lent. Des femmes, des enfants qui se trouvent sur son passage sont blessés. Et les bouchers qui courent après la victime échappée sont aussi dangereux dans leur course brutale que l'animal que guide la douleur et la rage.
Il y avait des grandes, alors, c'était piétons et animaux.
Elisabeth Philippe, historienne, ancienne directrice de la Maison de la Villette.
Et là, vous aviez des grandes rampes qui traversaient le canal avec des ponts en pierre, hein, très grands ponts, hein, pour que les animaux n'aient pas à monter, une montagne, quoi. Il fallait qu'ils montent très doucement et très sereinement.
Les bœufs, les moutons, tout ça ne traversaient pas de la même façon. Alors, les bœufs,
Pierre Haddad,
traversaient à pied, menés par des meneurs de bestiaux, et les taureaux devaient être attachés obligatoirement derrière à une voiture. Ils n'étaient pas en liberté. Quand un bœuf se sauvait dans l'abattoir, ceux qui gardaient l'abattoir s'empressaient de fermer les grilles. Mais encore fallait-il qu'ils le fassent à temps, parce que, imaginez un taureau dans Paris. Alors, moi, la plus belle évasion, je suis certainement le seul auquel c'est arrivé, cette histoire. Un jour, je suis arrivé le matin, et j'ai trouvé dans mon courrier une enveloppe verte, comme les enveloppes d'impôts. Et heureusement, j'avais le cœur solide. J'avais une amende, mais d'une somme fantastique, peut-être de 2000 euros, quelque chose. Alors, j'ai regardé le motif. Ma contravention, c'était déprédation de plantation de main d'homme. C'était une génisse que j'avais achetée à Chauny, dans l'Aisne, parce que je me déplaçais aussi. C'était une très belle génisse, race charolaise, modèle de luxe. Et elle s'est sauvée. Elle s'est sauvée, on l'a retrouvée un an plus tard, dans la forêt de Saint-Gobain, et elle avait tout cassé.
Dans quelle mesure, Damien Baldin, la création des abattoirs correspond aussi à l'émergence d'une peur des animaux ?
Je ne dirais pas que ça correspond à une peur des animaux. Ça correspond plutôt à un souci de vivre dans une ville plus tranquille et moins dangereuse.
Pour moi, la création de l'abattoir en 1810, ça marque quand même une vraie volonté du pouvoir public et du pouvoir politique de contrôler la filière. Alors, il y a deux aspects. Il y a l'aspect urbanistique. Napoléon Ier, il crée des marchés, des fontaines, des égouts. Plus tard, il y aura l'éclairage public. On modernise Paris. Premier point. Second point, puisqu'on veut que les Parisiens aient de la viande et du pain en quantité suffisante, on encadre le marché de la viande. L'abattoir permet de réglementer au niveau sanitaire, éviter les épizooties, hein, les maladies contagieuses. Et un inspecteur des abattoirs, sous tutelle de la municipalité parisienne, contrôle le bon déroulé des opérations d'abattage. Et le boucher est autorisé à pénétrer en abattoir s'il a l'autorisation. Et être soumis à une taxe.
Pour avoir le droit de l'utiliser, c'est ça ?
Ah oui, oui. La municipalité justifie cela en disant « on perçoit la taxe municipale » en échange de l'usage de l'échaudoir qu'on vous donne en location. Le propriétaire, c'est la ville de Paris. Hein. Donc forcément, on vous impose d'aller dans un abattoir, contrôlé quand même par quelqu'un, et en plus, vous payez une taxe. Donc forcément, le boucher, il préférait faire ça dans sa petite tuerie tranquillement, sans contrôle, avec des conditions d'hygiène qui lui sont propres, et personne qui vient l'embêter. La compensation, c'est qu'ils obtiennent le numerus clausus. Le numerus clausus, c'est vraiment ce qu'ils attendent. Donc avant, sous l'Ancien Régime, ils étaient donc 450, on va dire, en 89.
À Paris.
À Paris. Sous la Révolution, ça explose à 1500, 2000 bouchers. Et très vite, ils réclament, dès 1802, et après ils l'obtiennent au fur et à mesure, qu'on réduise le nombre de professionnels. Le chiffre souhaité, c'est arriver à 500 bouchers. Et ils obtiennent ce numerus clausus. Et fin 18e, on a déjà des bouchers qui ont compris que se déplacer à Sceaux et à Poissy, acheter le bétail sur pied, le faire ramener vivant jusqu'à la tuerie particulière, l'abattre et le vendre, quand on a un petit débit, quand on est un petit pratiquant, ça fait quand même beaucoup de frais. Donc très vite, on a des bouchers qui délèguent aux gros bouchers l'abattage. Il faut très bien voir que quand les abattoirs sont créés en 10, ils ouvrent en 18, ben certains bouchers en fait vont renforcer cette tendance de sous-traiter l'abattage, enfin la tuaison, aux autres bouchers. Et d'autres gros bouchers qui font du gros débit se spécialisent, peu à peu, les futurs cheveillards, se spécialisent dans l'abattage à façon pour les autres. Donc en fait, oui, c'est une contrainte, mais beaucoup de professionnels, finalement, vont y trouver leur compte.
Cinq abattoirs ouvrent leurs portes donc à la périphérie de Paris en 1818. Comment sont conçus ces établissements ?
Ils sont conçus comme des établissements salubres. C'est un des termes très importants. Toute la circulation des matières, le flux également de circulation des résidus est conçu pour être évacué assez rapidement, qu'il n'y ait pas de fermentation, de pourriture et que les points d'accès à l'eau notamment soient très aisés pour laver les viandes, les ateliers, mais également pour rejeter les eaux de lavage des ateliers.
Avant de construire un abattoir, il faut s'inquiéter de deux choses très importantes. Des moyens d'y amener de l'eau à foison et des moyens de s'en débarrasser. Chaque abattoir doit avoir une petite voirie destinée à recevoir toutes les matières chimeuses qu'on trouve dans les estomacs et intestins des animaux. Ces matières, quoique herbacées, se putréfient avec une rapidité extrême et dans cet état répandent une odeur des plus infectes. Il faut donc reléguer cette voirie dans la partie la plus reculée de l'établissement, enlever tous les jours les matières qui y sont déposées et la laver avec un robinet particulier disposé à son entrée. Il est bien entendu qu'elle doit communiquer, par une ouverture grillée, avec l'égout construit sous tout l'abattoir, et qui est lui-même une des conditions essentielles de l'établissement.
Alors, ces abattoirs, il ne faut pas non plus imaginer qu'ils sont éloignés à des kilomètres et des kilomètres de la ville de Paris. Les abattoirs, en 1818, lorsqu'ils sont livrés, se trouvent dans le quartier rive gauche de Grenelle, dans le quartier de Villejuif, et côté rive droite, le quartier du Roule, dans le 8e arrondissement d'aujourd'hui, à Ménilmontant et à Montmartre. Ils sont localisés dans ce qu'on appelle à l'époque encore les faubourgs. Et évidemment, ils sont peu à peu rattrapés par l'urbanisation qui fait qu'on les éloigne toujours de plus en plus, que la Villette va être créée alors que la Villette est un quartier encore très peu urbanisé, mais que évidemment l'urbanisation va rattraper les abattoirs de la Villette et va même la dépasser, ce qui fait qu'ils vont se retrouver in fine en plein tissu urbain.
Les louches ébèmes de la rue Madeleine sont des tueurs à la hauteur. L'éducation, la distinction, ça ils en ont comme des seigneurs. Moi qui travaille à la sauvette, à l'entrée des bouches de métro, quand je les rencontre à la Villette, moralement je leur tire mon chapeau.
Le marché de la Villette a ouvert le 20 octobre 1867.
Elisabeth Philippe.
Alors que les abattoirs ont ouvert le 1er janvier 1867. Et donc le marché, c'était un espace clos. On n'avait pas le droit d'y entrer, enfin c'était pas ouvert au public. Et il y avait des grandes grilles, un peu figurées comme devant le Luxembourg, vous voyez, le jardin du Luxembourg. Des grandes grilles comme ça, qui entouraient tout le site. Et il y avait des grandes portes d'entrée, par où entraient les animaux à pied. Et de l'autre côté, il y avait une gare où entraient les animaux par les trains.
À notre gauche se situe ce qu'on appelle aujourd'hui la grande halle de la Villette. Oui. Et c'est un reste du marché de l'époque.
La grande halle a été dessinée par Baltard. C'est là où s'abritaient les bœufs, enfin tout ce qui est bovin. Et les longes que vous voyez là, les barres que vous voyez là, il y avait aussi plein de barres transversales comme ça, à laquelle on attachait les animaux. La tête en bas, quand ils étaient vendus, donc on reconnaissait ce qui était vendu, pas vendu, vous voyez. Et donc cette halle avait un terrain particulier, c'est-à-dire que c'était des bosses sur lesquelles on mettait les animaux pour que, bon, qu'ils puissent faire leur déjection et que ça se nettoie plus facilement. C'était moderne hein, à l'époque, voilà. Le site en lui-même, hein, abattoir et marché compris, c'est 40 hectares. C'est absolument énorme. Mais il avait ce site particulier, c'est qu'à l'époque, il a réuni en un même lieu et place, un marché et des abattoirs. On n'échangeait pas les races ici. On amenait les animaux pour être tués, et uniquement tués.
Pour les cases destinées à l'abattage, il est indispensable qu'elles soient dallées et construites jusqu'à une certaine hauteur en pierre de taille dure pour résister au lavage qui doivent s'y faire à chaque instant de la journée. Il faut de plus que par la position et l'épaisseur du mur, il règne dans leur intérieur une fraîcheur continuelle. Cette fraîcheur est nécessaire, non seulement pour la conservation de la viande en été, mais encore pour empêcher les mouches d'y aborder. Il est en effet d'observation que ces insectes ne pénètrent jamais dans les boucheries ainsi disposées.
Ces parties hautes n'étaient pas vitrées, bien sûr. Tout était aéré. C'est pour aérer la halle. Il fallait que l'air circule, parce qu'avec les animaux, c'était impressionnant. C'était impressionnant.
Est-ce qu'on nettoyait ce marché, cette grande halle ?
Ah oui, c'était nettoyé très régulièrement. Avant la vente, après la vente, il fallait ramasser le fumier. Alors, vous savez, il y avait des gens pour tout. Ceux qui ramassaient le fumier, ceux qui allaient jeter les choses dans des endroits par là, etc., etc. Tout le monde avait son rôle. Et on ne mélangeait pas les gens, hein. Celui qui conduisait les animaux ne balayait pas par terre.
Je suis rentré à la Villette et là, j'ai commencé à essayer de travailler à mon compte.
Pierre Haddad.
J'arrivais aux abattoirs le matin vers 6h30. La tuerie commençait à 7h pile. Et il y avait un policier qui surveillait si quelqu'un avait abattu un animal avant 7h, il aurait eu une contravention. Bon, alors, il y avait l'abattage. À un moment, j'ai pratiqué moi-même. J'étais spécialisé dans les bovins. J'abattais environ 20 bovins par jour. Et plusieurs choses qu'on utilisait. J'ai porté, notamment, j'ai mis de côté pour vous montrer, un revolver. Un revolver qui s'appelle un matador. Et avec un matador comme celui que j'ai, on pourrait abattre un éléphant. C'est une arme très puissante. Bon, alors donc, on a abattait du bétail jusqu'à 1h de l'après-midi. Et puis après, on allait déjeuner et la vente commençait à 2h. Et en principe, elle se terminait à 4h. Alors, on travaillait, c'était dégoûtant. Mais on avait la passion de l'eau. On arrosait. Et l'après-midi, quand la vente commençait, on aurait pu manger par terre. C'était impeccable.
La création des abattoirs ne va pas modifier les modes d'abattage. Les modes d'abattage qui sont ceux du XVIIIe siècle et même des siècles précédents, c'est l'égorgement. Avec une particularité pour les grands animaux qui sont préalablement assommés. Et il ne faut pas s'imaginer que les abattoirs qui sont créés ressemblent aux grandes usines du XXe siècle. Les abattoirs du début du XIXe siècle sont en fait une série de tueries individuelles. Hein, c'est en fait, vous mettez dans la même maison plusieurs tueries individuelles, l'une à côté de l'autre. Ce n'est pas du tout une usine à la chaîne qu'on peut voir aujourd'hui. Les modes d'abattage dans les abattoirs au XIXe siècle restent une méthode très artisanale.
En principe, c'était avec un merlin. Bon, s'il s'agissait d'une vache, on lui donnait un coup de merlin sur la nuque, ce qu'on appelait le chignon. Elle était abattue chignon. Et un taureau, par exemple, il était abattu d'un coup dans le front, entre les deux yeux. On disait qu'il était abattu de front. Mais l'animal était masqué. C'était un travail très très dur, très très pénible. D'autant plus, alors je parle des ouvriers. Les ouvriers, non seulement ils abattaient du bétail le matin, mais l'après-midi, quand il y avait la vente, ils chargeaient les demi-carcasses dans les voitures. Là. Et il fallait qu'ils soient très forts.
Est-ce que dans le parcours professionnel d'un boucher du début du 19e siècle, le fait de tuer est quand même réservé aux apprentis, Sylvain Leteux ?
Moi, je pense qu'il faut renverser notre regard. À l'époque, non. L'arrivant dans la profession de boucher, il a des rituels de passage. Je pense que c'est pas avant 1 an, 2 ans, 3 ans qu'on lui donnera la tâche de tuer.
Ça veut dire qu'en ce début du 19e siècle, Sylvain Leteux, le fait de tuer l'animal est reconnu comme un savoir-faire valorisant pour le boucher, ou en tout cas qui fait partie du travail du boucher.
Valorisant, je sais pas, mais en tout cas, ça fait partie de sa fonction. Et ça fait partie de son identité. Quand on dit tueur, boucher, quand on voit les images du Moyen-Âge, les images de l'ancien régime du XVIIIe siècle, on voit bien qu'il a son couteau, il a son tablier, la saignée, ça fait partie du geste professionnel. Donc le boucher, début 19e, il est tueur, forcément. En tout cas, il doit savoir tuer.
Scientifiques au 19e siècle par rapport à cette question de l'animal. On peut penser qu'au départ, ils sont plutôt hygiénistes. Est-ce qu'ils vont jouer un rôle dans l'évolution des connaissances sur la sensibilité des animaux, par exemple, Damien Baldin ?
Évidemment, l'essor des sciences naturelles, l'essor de la médecine expérimentale, et puis surtout la création littéralement d'une science vétérinaire au XIXe siècle. Alors, les premières écoles vétérinaires sont créées à la fin de l'Ancien Régime, et la profession va littéralement se structurer tout au long du XIXe siècle. Cette science vétérinaire va bien sûr bénéficier des progrès de la médecine expérimentale, de la clinique de la médecine, notamment du fonctionnement de la physiologie des animaux.
Au début du XIXe, on fait appel au vétérinaire uniquement quand il y a un cas litigieux. Quand on s'aperçoit, on n'est pas sûr est-ce que la carcasse est saine ou est-ce qu'elle est malsaine, là on fait appel à l'inspecteur qui est un vétérinaire. Mais donc le vétérinaire est présent de façon très ponctuelle. Et on fait appel à lui quand il y a un doute. Donc faut bien voir que jusqu'au Second Empire, le contrôle sanitaire des viandes est effectué par la corporation. C'est de l'autorégulation de la corporation. Donc le vétérinaire, il va devoir se battre pour prouver que lui est plus impartial et a un savoir technique scientifique supérieur au savoir du boucher. Le savoir du boucher, il est basé sur du vécu, un savoir expérimental. Le vétérinaire va faire démonstration au fur et à mesure que lui, il a un savoir scientifique. Et donc, il va s'imposer. Mais en fait, quand on voit, il faut attendre 1884 pour que, notamment à Paris, on organise vraiment un service vétérinaire. Et ces vétérinaires-là supplantent réellement les bouchers. Donc, c'est très tardif.
Les vétérinaires qui vont vraiment avoir le souci de la sensibilité des animaux, ce sont notamment les vétérinaires des abattoirs, qui, eux, sont vraiment les vétérinaires qui sont le plus en contact avec la souffrance extrêmement spectaculaire de l'abattage, et qui donc vont être au cœur de l'invention de dispositifs, notamment du pistolet humanitaire, et qui vont rechercher dans les abattoirs à atténuer la violence de l'abattage.
La Société protectrice des animaux, elle est créée en 1845 et reconnue d'utilité publique, je crois, dans les années 1860-70. Est-ce qu'elle s'intéresse à ces animaux de boucherie et considère cette façon d'abattre l'animal comme intolérable ?
Pas immédiatement. Le mouvement de protection des animaux se fait d'abord essentiellement pour les chevaux. Vous avez un intérêt pour les veaux. Dans le bestiaire de la protection animale qui émerge au milieu du XIXe siècle, vous avez effectivement les veaux, parce que c'est l'image de l'enfance, mais c'est une attention qui est surtout focalisée sur le transport des animaux de boucherie. Elle se focalise encore assez peu sur les méthodes d'abattage à l'intérieur des abattoirs. C'est essentiellement à partir de la seconde moitié du XXe siècle que se structure un milieu associatif pour une meilleure protection des animaux d'abattoir.
Auguste alla d'abord chercher dans la cour deux brocs pleins de sang de cochon. C'était lui qui saignait à l'abattoir. Il prenait le sang et l'intérieur des bêtes, laissant aux garçons des chaudoirs le soin d'apporter l'après-midi les porcs tout préparés dans leur voiture. Quenu prétendait qu'Auguste saignait comme pas un garçon charcutier de Paris. La vérité était qu'Auguste se connaissait à merveille à la qualité du sang. Le boudin était bon toutes les fois qu'il disait « le boudin sera bon ». « Eh bien, aurons-nous du bon boudin ?» demanda Lisa. Il déposa ses deux brocs et lentement « Je le crois, Madame Quenu, oui, je le crois. Je vois d'abord ça à la façon dont le sang coule. Quand je retire le couteau, si le sang part trop doucement, ce n'est pas un bon signe. Ça prouve qu'il est pauvre. J'enfonce toujours quatre doigts du couteau, c'est la mesure. Mais voyez-vous, le meilleur signe, c'est encore lorsque le sang coule et que je le reçois en battant avec la main dans le seau. Il faut qu'il soit d'une bonne chaleur, crémeux, sans être trop épais. Je bats, n'est-ce pas ? Continua le garçon en faisant aller sa main dans le vide, comme s'il fouettait une crème. Eh bien, quand je retire ma main et que je la regarde, il faut qu'elle soit comme graissée par le sang, de façon à ce que le gant rouge soit bien du même rouge partout. Alors, on peut dire sans se tromper, le boudin sera bon. Il resta un instant, la main en l'air, complaisamment, l'attitude molle. Cette main qui vivait dans des seaux de sang était toute rose, avec des ongles vifs au bout de la manche blanche. Zola, le ventre de Paris.
Est-ce qu'on se soucie à l'époque des ouvriers des abattoirs qui sont confrontés à cette violence ?
À ma connaissance, non. L'idée de se dire que les ouvriers souffriraient d'être au contact de cette violence-là, je trouve que c'est même peut-être un petit peu anachronique. Le souci du bien-être des classes dangereuses, des classes inférieures, commence quand même à apparaître avec le socialisme. Donc c'est encore très marginal dans les sociétés du 19e siècle, hein, ce souci-là. En plus, on est encore les personnes qui vont abattre les animaux dans les abattoirs lorsqu'ils sont créés dans la première moitié du 19e siècle. Hein. C'est encore le milieu des artisans. Hein. Ce n'est pas encore le milieu des ouvriers, du prolétariat, des grands abattoirs d'usines.
Malgré tout, on a une société qui organise cette violence, mais qui continue à l'admettre. C'est-à-dire qu'il faut bien qu'il y ait des gens qui tuent ces animaux.
On va compartimenter les activités, notamment parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, il y a une demande sociale accrue de cette viande. Et au 19e siècle, l'idée qu'il ne faudrait pas tuer les animaux pour les consommer est une idée qui est complètement hors de propos. Et ça, effectivement, les abattoirs, cette idée que on n'éradique pas la violence, on la met de côté.
Merci à Damien Baldin, Pierre Haddad, Thomas Leroux, Sylvain Leteux, Elisabeth Philippe. Merci également à Jacques Brice, Élise D'Artois, Noélie Vial. Lecture, Hélène Losseur. Archive, Isabelle Fort-Rendu, Aurélie Marseille. Extrait sonore, Le sang des bêtes, Georges Franju, 1949. Prise de son, Gaël Braouezek, Maï Tran, Jean-Guilain Meige, Manuel Couturier. Mixage, Philippe Brodin. Cacher le sang des bêtes, de la tuerie à l'abattoir. Un documentaire de Catherine Decopet et Séverine Cassard.
Demain, dans la Fabrique de l'Histoire, nous vous parlerons de l'environnement à Rome, dans la Rome antique. Si vous voulez écouter ou réécouter ce documentaire, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, www.franceculture.fr. Vous pouvez l'y télécharger pendant l'année qui suit sa diffusion, discuter également avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter. Ça s'appelle la Fabrique de l'Histoire sur Twitter et vous pourrez sans aucun problème nous trouver.